Le nouveau montage financier du quotidien La Presse, son statut. Pierre-Carl Péladeau, lui, refuse l'option de la philanthropie qui avait été mentionnée la semaine dernière.
Il faut comprendre une chose, hein? La Presse fait partie d'une réalité beaucoup à l'opposé, si on veut, du Journal de Montréal. Première des choses, La Presse est une entité autonome qui n'a pas de lien de convergence avec le reste de Power Corp. Power Corp, c'est des produits financiers. C'est ça, Power Corp, en gros. C'est des milliards de revenus liés à la finance. Et là, on a là-dedans quelques placements, dont La Presse, qui est comme des placements historiques de la famille, donc d'une autre époque, et qui demeurent dans le groupe. Et là, on veut les transférer. Mais la philanthropie vient du fait que La Presse est un centre de coûts. On a plus de 500 employés. On a une structure de coûts extrêmement élevée. On a des revenus à la baisse. On a un régime de retraite avec probablement un déficit actuariel. Donc, tout ça fait en sorte que La Presse est une entité tout seule. Du côté de Québécois, on est dans une autre réalité. Tu sais, quand tu dis à un journaliste, tu vas passer à la TV, chez TVA, tu vas écrire dans notre journal, Journal de Montréal, tu vas être appelé à commenter dans nos choses. Donc, il y a beaucoup de contenu au Journal de Montréal, de convergence dans les revues. Donc, au niveau du groupe Québécois, on a une convergence. Et cette convergence-là, peu importe qu'elle soit très rentable ou non, c'est pas grave, parce que la réalité, c'est que c'est Vidéotron qui est rentable.
Oui.
Et Vidéotron a besoin pour mettre de l'avant la marque, pour mettre de l'avant les ventes, Paul, de contenu. Et c'est à ça que sert le Journal de Montréal. Donc, on n'ira jamais dans la philanthropie parce que ce serait bizarre de mettre la gestion du Journal de Montréal, même si c'est à la baisse, dans une entité externe et perdre la convergence, perdre les références, perdre l'infopublicité implicite. Tu sais, quand tu mets 10 pages sur une émission de télévision qui est en exclusivité sur ton club illico,
ouais,
tu peux pas dire « Ah, je vais le mettre à part ». On est dans une autre réalité. Et quand on regarde les états financiers, c'est frappant parce que on a les états financiers de Québécois, on n'a pas 4 milliards de revenus en 2017. Et quand on va voir, on a quand même 500 millions de bénéfices nets. Là. C'est très, très payant Québécois pour l'instant. Mais quand on va dans Vidéotron, là, on se rend compte que l'information sectorielle donne tout. On a, sur 4 milliards, point 1, on a 3,3 qui vient des télécommunications, qui est grossièrement Vidéotron. Et dans le bénéfice d'exploitation, ben, sur près d'1,6 milliard, il y a plus d'1,5 milliard qui vient de Vidéotron. Donc, les médias, le sport, le divertissement et le siège social sont dans la catégorie du peu matériel pour Vidéotron et pour Québécois. Donc, on peut se permettre d'arriver, excuse-moi pas le terme, un peu à perte ou break-even avec le Journal de Montréal.
Ouais.
Tant que ça fait partie du groupe, parce que ça nourrit le groupe, ça donne valeur au groupe et ça donne valeur à Vidéotron. Et ça, faut pas l'oublier.
Et ils sont seuls maintenant. Non, c'est pas vrai parce que Le Devoir nous a prouvé que même avec l'incendie d'hier, ils étaient capables de sortir l'édition papier. Mais ils sont les seuls maintenant à y aller d'une édition papier quotidien.
Oui. Mais tu sais, Paul, aussi, l'avantage aussi du Devoir, c'est que même si ça a brûlé, tu sais, maintenant qu'il y a des serveurs dans une salle, tu sais, les locaux officiels d'un journal, tout le monde peut se revirer de bord. Il y a plein de contingences, les entreprises. Le Devoir, ça pourrait être des journalistes chez eux, des infographistes chez eux, avec un serveur à quelque part, puis un serveur backup ailleurs. Donc, tu sais, oui, l'édifice a brûlé, c'est symbolique à cause de la cigarette, mais quand on regarde la réalité, les journalistes sont en vie, l'information est en vie et toutes les données électroniques sont en vie. Donc, on peut repartir rapidement.
Les ventes au Canada sont à leur plus bas niveau en 5 ans.
Au mois d'avril, c'est-à-dire, on a une baisse de près de 14 % par rapport à avril 2017, selon l'Association canadienne de l'immeuble. Bon, c'est un déclin qui nous dit, dans le fond, bon, il y a des marchés qui ont reculé, comme à Calgary, Ottawa et Montréal. Il y a plusieurs choses, Paul. Il y a les nouvelles règles hypothécaires, évidemment, ça coûte tellement cher maintenant à acheter. Il faut tellement démontrer sa capacité de payer que maintenant, qu'on ait un prêt assuré ou non assuré, ça nous prend quand même une capacité de montrer qu'on peut respecter des critères, dont payer le taux de gré d'une certaine époque. Donc, payer 2 % de plus environ que ce qu'on négocie. Et pendant ce temps-là, c'est drôle parce que parallèlement à ça, on se retrouve quand même dans une situation où les taux variables présentement, encore aujourd'hui, il y a une banque qui a baissé son taux variable 5 ans fixe pour le prochain mois. On se bat sur le taux variable 5 ans. Mais le taux variable peut varier, là. Mais là, on offre vraiment bas. Donc, le taux variable 5 ans chez TD, on est rendu à 2,45 pour les meilleurs clients.
Wow.
Mais là, on parle de variable, évidemment. Le fixe, on est quand même dans les meilleurs clients au Canada. Au Québec, là, on parle de 3,30 % à peu près. Donc, il y a un écart quand même important. Mais on voit que les banques se battent beaucoup pour le court terme, beaucoup pour le variable du prochain mois, de mai-juin. Pourquoi? Parce qu'on veut faire du volume. On veut démontrer des volumes parce que quand tu vas chercher du volume, tu vas chercher de l'assurance hypothécaire. Et quand tu vas chercher de l'assurance hypothécaire, très sympathique, tu peux doubler pour tes conseillers les objectifs. Donc, tout ça vient ensemble, mais ça joue dur au niveau des prêts hypothécaires et de l'assurance hypothécaire. Mais on voit que les fixes ont tendance à la hausse et il y a une compétition dans le variable dans le moment.
Et en terminant, les enfants de la génération X. Alors là, on n'est pas sûr, hein, parce qu'il y a deux versions. Oui. Il y a la génération X qui considère qu'en Occident, t'es né entre 1966 et 1976. Mm-hmm. C'est ton cas?
Moi, je suis en 79.
Non, t'es pas. Oui, mais c'est-à-dire que c'est pas.
Ça dépend de quel. Qui a fait la catégorie, tu vois, dans l'article.
Il y a des spécialistes qui disent que ça peut être 61 à 81.
C'est ça, dans le sondage. Mais 81, c'est ce qu'on appelle comme les xénials. Hein. C'est comme les X, entre les X et les Y. T'sais, moi, je suis une fin de X. J'ai les frustrations des X, mais j'ai l'apparence d'un Y, donc je. C'est entre les deux. T'sais, la génération 79, 82, 83, on les met comme, évidemment, c'est toujours entre deux chaises. T'sais, de toute façon, on définit des générations en fonction de date, c'est un peu limitatif. Mais ce qu'on dit dans le sondage, évidemment, un sondage encore pour dire aux gens que vous avez besoin d'un conseiller financier, mais c'est de dire que les Canadiens âgés de 37 à 57 ans, ben, il y en a 28 % qui n'ont rien épargné. Alors là, on se dit, ben, mon Dieu, ça n'a aucun sens entre 37 et 57 ans. Mais regardons comme il faut, là. Quand vous travaillez, vous épargnez un minimum parce que vous avez du régime des rentes du Québec, donc la retraite Québec. Et ça, comme Québécois, vous avez une micro-retraite déjà en partant. On ne peut pas dire que vous avez épargné zéro. Vous avez épargné zéro de vous-même, mais vous avez épargné. Puis, quand on regarde les salaires, bon, les derniers salaires qu'on a disponibles comme études au Québec, là, c'est 2015, mais il y a 40 % des gens qui ne font pas 25 000 officiels. Évidemment, on parle, encore une fois, Paul, tu t'es clairé. Donc, ces gens-là, évidemment, qu'on peut pas leur demander d'épargner, même s'ils sont rendus à 50 ans ou 51 ans, tu es en mode survie. Ouais. Tu déclares le salaire le plus bas au Québec, au Canada, mais tu représentes quand même 40 % de la population. Autre facteur intéressant là-dedans, c'est de se dire, bon, les boomers, même ceux qui n'ont pas épargné, puis les X, les vieux X, là, qui ont 57 ans, là, c'est quoi l'avantage qu'ils ont? Ils ont potentiellement acheté une maison entre 1998 et 2006, ou 1991 et 2006. Donc, leur maison vaut un multiple de ce qu'ils ont payé. C'est donc, sûr. Même s'ils sont peu d'épargne, Paul, on peut y aller avec un 3, 4, 500 000 non imposables parce que le gain est non imposable sur le capital, sur la résidence principale.
Mais t'as raison. Le marché immobilier a été favorisé et favorable aux baby boomers.
Et aux X aussi, parce que regarde, moi, j'avais quoi, à 21 ans en 2000, si j'avais eu 28 ans en 2000, j'aurais été dans une autre situation où j'aurais acheté. Donc, j'aurais pu acheter, par exemple, à cette époque-là, un triplex à 250 000 en 2001 ou 2000, oui. Même à 200 000, oui. Et qu'aujourd'hui, il vaudrait 600 000.
Absolument.
Donc, il y a cet avantage-là, il y a ce qu'on appelle la chance d'avoir acheté au bon moment. Et il y a 88 % des X qui sont préoccupés par leur mode de vie à la retraite, donc qui ont un stress financier lié à la retraite. Puis il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça.
Ils ne peuvent pas prédire.
Non, mais tu sais que tu es déjà stressé parce que tu sais, quelqu'un de mon âge qui n'a pas d'épargne encore, ça commence à être stressant quand tes amis ont 100 000, 150 000, tu sais que tu ne rattraperas pas.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est parce qu'ils idéalisent aussi leur retraite ou qu'est-ce qu'elle va avoir l'air.
Oui, ça c'est l'autre point. On pense souvent à la retraite, on se fait vendre ça comme le moment où on se repose, on dépense, on a du plaisir.
Tout le monde fait ça, même les baby boomers font ça.
Oui, mais dans le fond, quand on regarde ça, c'est le moment où on commence à brûler du capital qu'on a cumulé. Oui. Donc effectivement, si on pense à la retraite et qu'il n'y a pas de capital de cumuler, ça fait mal un peu.
C'est comme un sablier.
C'est comme un sablier, oui. C'est comme un compte à rebours.
C'est ça, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus, pas seulement de génération X, les générations Y vont être obligées de travailler jusqu'à 90 ans, mais les baby boomers aussi qui retournent sur le marché du travail.
Oui, puis il y a deux facteurs importants là-dedans. Il y a le premier qui est l'indexation qu'on a souvent pas à la retraite. Le deuxième, c'est est-ce que j'ai un régime à prestations déterminées, donc qui me garantit une rente? Mais je pourrais ajouter un troisième facteur qui est la liberté. Parce qu'avoir une belle retraite à prestations déterminées, c'est bien beau de dire « Ah, dans 35 ans, dans mon emploi, je vais avoir une retraite garantie. » Mais ça vous emprisonne dans l'employeur. Donc, la sécurité de vieillesse, la sécurité d'un revenu à la retraite est compensée parfois, Paul, par le stress d'être obligé de travailler dans la même place toute sa vie.
Il y a ça.
Faut pas sous-estimer ça.
Ouais, exactement. T'es beaucoup trop jeune pour penser à ça maintenant. Merci beaucoup, Pierre.
Salut, Paul.